ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du Mike qui commence. Quand on parle de propagande, on pense souvent au régime autoritaire du XXe siècle, à leur image contrôlée, les récits officiels, leurs films au service d'une idéologie. Mais aujourd'hui, les images sont partout, chaînes d'information continues, réseaux sociaux, plateformes de diffusion, concentration des médias entre quelques grands groupes financiers. Alors la question se pose autrement, peut-on encore parler de propagande? Et si oui, sous quelle forme? Dans ce paysage saturé d'images, le cinéma reste-t-il un espace de résistance et de subversion? Ou est-il devenu un simple produit de consommation culturelle parmi tant d'autres? Pour nous en parler, je reçois Olivier Silam, qui a fait une thèse, les films militants du Parti communiste français de la libération à la mort de Staline. C'est bien ça?
C'est ça.
Bienvenue au MAG.
Je suis professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Toulouse, et je commets de temps en temps quelques petits trucs en cinéma, voilà. À l'écrit, je précise.
Je pense que, pour commencer, tu pourrais définir les contours du cinéma, de propagande.
En fait, c'est difficile à définir, parce que tout film peut faire de la propagande en réalité, même un film anodin. En réalité. Après, tu as des films qui assument totalement, bon, puisqu'on parle d'Eisenstein.
Ouais.
Effectivement, Eisenstein assume totalement son côté propagandiste. Et c'est excellent. Ben, on en reparlera. Hein. Lui, en tout cas, la forme et le fond, il maîtrise tout. Quoi. Pour prendre le cinéma américain des années, même de la grande époque, des grands studios d'Hollywood, c'est de la propagande. Ça définit l'American Way of Life. Ou les westerns qui te font croire que les gentils, c'est les blancs. Alors que c'est un massacre. Hein. Ils te racontent des massacres des Indiens, en réalité. Voilà. Il y a des westerns après qui ont changé d'optique, hein, mais au début c'est ça. Ça c'est de la propagande. T'expliques qu'ils ont eu raison de coloniser un territoire. En gros, c'est de la propagande. Qu'ils font à leur intérieur pour se justifier eux-mêmes, et mais qu'ils font aussi à l'extérieur, parce que c'est effectivement la forme western, je pense, a intéressé plein de gens. Tout le monde apprécie les grands espaces, l'espèce de sentiment de liberté que tu peux avoir, enfin liberté de tuer en réalité. La propagande, et on pourrait prendre le cinéma français, enfin, la propagande, il y en a partout. Même dans des films, on ne pourrait pas croire. Moi, j'ai tendance à penser, par exemple, l'espèce de film, là, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, qui, sous prétexte de lutter contre les clichés racistes, en réalité, reproduit des clichés racistes. C'est des films de droite, pour moi, en fait. Concrètement, de droite. Et sans doute assumé, au demeurant. Voilà. Donc, en fait, la propagande, elle est partout. Alors, après, qu'est-ce qu'un cinéma militant? Alors, oui, Eisenstein est militant, par exemple. Et on en parlera aussi, Pasolini est un militant. Mais ce sont des théoriciens en même temps. qui assument et qui écrivent des choses sur ce que doit être l'art en règle générale, pas que le cinéma hein, en demeurant, parce que bon, Eisenstein était aussi du théâtre, était aussi dessinateur, Pasolini écrivait des poèmes, donc il sait ce qu'ils font, enfin donc il est connu d'abord Pasolini comme écrivain, hein, pas avant d'être scénariste puis cinéaste, donc ils théorisent un certain nombre de choses, donc ce sont des théoriciens, donc oui ce sont des militants, mais on peut avoir plein de films qui vont parler de choses. Ben je sais, c'est difficile à essayer à expliquer le côté propagande. Et d'ailleurs, c'est pas un mauvais mot, propagande en soi. Hein, ça veut juste dire diffuser des idées. Mmh. Alors on peut avoir une propagande plus ou moins subtile.
Ouais, alors justement, j'ai l'impression que l'une des différences, c'est que Eisenstein, par exemple, avance pas masqué. Alors que pour les États-Unis, il y a un côté un peu soft power, tu vois. Si on prend le cas d'Eisenstein, lui, il considérait ouvertement que le cinéma, c'était un outil révolutionnaire. Un outil qu'on pouvait mettre au service de la révolution.
Il faut le replacer dans le cadre de toutes les avant-gardes en Union soviétique dans les années 1920. Il n'y a pas que le cinéma et on va pouvoir reprocher beaucoup de choses aux bolcheviques, mais au moins là-dessus, ils ont compris qu'ils ont laissé les artistes tranquilles au départ. En fait, ils les ont laissés faire, que ce soit avec le cinéma, Eisenstein, Poudovkine, Vertov et d'autres, en littérature avec Mayakovsky. Enfin, ces artistes, ils sont relativement libres. Ils ont créé un truc qui s'appelle le prolétkult, la diffusion de la culture prolétarienne. Et ils théorisent plein de choses. Et ils ont des écoles différentes entre eux, où ils s'engueulent dans des revues entre eux. Alors Lénine trouve ça très bizarre. Mais il laisse faire. Et le commissaire au peuple, à l'éducation et à la culture, Anatoly Lacharsky, est là-dedans, et pas du tout d'accord avec Lénine, et ça passe. Ça passe. Dans les années 1920, il n'y a pas de problème. Je précise dans l'art, hein, je précise. Parce qu'ils comprennent, et Lénine dit même que de tous les arts, le plus important, c'est le cinéma. Parce qu'il comprend le pouvoir de l'image. Et on est encore dans le cinéma muet. Il comprend le pouvoir de l'image, et donc il laisse faire, et il comprend qu'effectivement, bah, les théoriciens que sont les artistes soviétiques des années 1920, il faut les laisser faire à ce moment-là. Ils n'ont pas trop d'entraves. Pas trop. Voilà. Donc il y a effectivement une compréhension, donc c'est totalement assumé. Et Eisenstein n'arrive pas que de la révolution. Enfin, il parle de la révolution. Potemkin, c'est pour les 20 ans de la révolution de 1905. Et Octobre, c'est pour les 10 ans de la révolution d'octobre 1917. Il y en a d'autres, hein. La grève raconte ce qui se passe avant en fait, et d'ailleurs c'est un film très pessimiste sur ce qui se passe avant. Ce qu'on appelle la ligne générale, c'est-à-dire dont Staline a changé le nom en ancien le nouveau, raconte la colonisation des campagnes. Raconte la colonisation des campagnes telle qu'il l'aurait souhaité, pas telle qu'elle s'est déroulée en réalité.
Si on reste sur ces deux films là, que tu viens de citer, le Cuirassé, Potemkin et Octobre, on a le sentiment que le cinéma de Eisenstein cherche à rendre la révolution désirable, à lui donner une forme sensible. Est-ce que toi, tu penses que le cinéma contemporain peut encore produire des imaginaires de transformation sociale où il a, renoncé à cette forme d'ambition ?
Alors il peut, mais ce qui est dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est formidable, pourquoi Eisenstein, mais aussi Poudovkine, mais aussi Dovzhenko, d'autres, ont pu tourner des films révolutionnaires comme ils le souhaitaient, c'est parce qu'on les a laissés faire. C'est le paradoxe. Alors qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que il faut financer un film, ça se finance. Donc il faut trouver quelqu'un qui accepte de... quelqu'un, on va dire, un capitaliste, pour dire les choses simplement, qui va accepter de financer un film qui remet en cause le capitalisme. Par exemple, si on parle de cette propagande-là, de ce côté-là, il y en a qui arrivent. Hein. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, donc on sait qu'il y a Hollywood, et ça c'est en Californie, mais il y a aussi un cinéma indépendant. Ce qu'avait fait Robert Redford en 1910 en créant le festival de Sundance pour le cinéma indépendant, c'est justement pour permettre à ceux qui sortent des clous de pouvoir faire un cinéma qui soit, y compris parfois un cinéma militant. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous avons, on est tenu par la question de l'argent, en fait. Parce que dans un film, il y a un scénariste, il y a un réalisateur, il y a des acteurs, il y a les techniciens, faut pas les oublier. Et le coût de la pellicule, c'est un peu différent parce qu'il y a le numérique. Il y a plein de choses, il y a un monteur, il y a tout, j'ai dit tout masculin, mais ça peut se faire au féminin. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un film qu'il faut payer, et cet argent, il faut le trouver. Et puis il y a le coût des décors, le coût de plein de choses. C'est compliqué. C'est la réalisation d'un film, je parle d'un film de fiction, mais ça pourrait être la même question pour un film documentaire en réalité. C'est compliqué en fait. Donc on est tenu par la question de l'argent. Burn Hollywood, burn, I smell a riot going on. First the guilty, now they're gone. Yeah, I'll check out a movie, but it'll take a black one to move me. Get me the hell away from this TV. All this news and views are beneath me. So all I hear about is shots ringing out about gang putting each other's head out. So I'd rather kick some slang out. Alright fellas, let's go hang out. Hollywood or would they not make us all look bad like I know they had. But some things I'll never forget, yeah. So step and fetch this shit. For all the years we looked like clowns, the joke is over, smell the smoke from all around. Les studios officiels qui étaient la Mosfilm, donc évidemment rentrer là-dedans c'était le Graal. Hein. Donc est-ce que c'était des fonctionnaires? Oui et non. Je parle de Zenchen des années 1920, hein. C'est vraiment les avant-gardes que fait Chagall dans les années 1920 en Union soviétique. Cette période particulièrement, ils ont fait la révolution, ils ont mis à bas l'ancien monde, le capitalisme, et il faut inventer autre chose. Et eux ils pensent qu'il faut inventer un art différent. Un art nouveau qui ne soit pas un art gangréné par la bourgeoisie. Donc ils se lâchent, ils se lancent. Donc oui, ils sont payés par l'État soviétique. Ça va changer à la fin des années 1920. Et dans les années 30, c'est fini. Ouais. Le stalinisme a tout repris. Il ne faut pas opposer des années 20 qui seraient merveilleuses à des années 30 qui seraient terribles. Mais il n'empêche que pendant les années 20, il y a une certaine liberté.
Et ces films sont destinés à l'exportation. On peut voir facilement ces films-là dans le monde entier, ou c'est pour le public de l'Union soviétique à ce moment-là?
Le but, c'est de les exporter.
Ah, ouais.
Il faut exporter la révolution. Ouais. L'idée stalinienne de socialiser dans un seul pays est une hérésie d'un point de vue marxiste. L'idée, c'est que la révolution ne devait pas s'arrêter à la Russie, ne devait pas s'arrêter au pays de l'ex-Union soviétique. Ça ne s'est pas produit. Ça aurait pu, mais ça n'a pas eu lieu. Un des moyens de l'exporter, c'est effectivement par la propagande. Par exemple, il y a une histoire sur Eisenstein où, bon, ils font du cinéma muet, ils font 4 films muets. Et il y a le parlant qui arrive aux États-Unis, et donc Staline comprend que c'est intéressant. Il demande à Eisenstein, à son chef opérateur Edouard Tissé, et à son assistant Grigor Alexandrov, d'aller aux États-Unis pour étudier le parlant. Il leur donne $25 à chacun. Il passe par la France, donc en France, avec $25 tu vis pas, donc Eisenstein donne des conférences. Il y a plein de gens, parce que Potemkin, tout le monde veut le voir. Tout le monde veut voir le résultat de Potemkin. Il y a un énorme succès. Bien sûr, il rencontre toute l'intelligentsia communiste de l'époque, alors, faut pas être surpris, il y a 100 ans, l'intelligentsia communiste, ça représente beaucoup de choses. Mais évidemment, il va être expulsé de France, parce qu'on est trop dangereux, et on va commencer à vouloir interdire Potemkin. En Allemagne, lorsque les nazis prennent le pouvoir, Goebbels dit « Ah mais Potemkin, ça c'est un super film, donc évidemment on va l'interdire ». Il dit « Ça c'est un film de propagande fabuleux, et donc, sous-entendu, il faudrait qu'on fasse un truc équivalent, enfin que les nazis fassent des trucs ». Ils sont incapables de le faire, bien sûr. Donc il y a interdiction de ces films. Mais même dans la France démocratique, de la Troisième République, Potemkin pose problème. Donc à un moment donné, oui, il sera interdit. Et les films d'Eisenstein ne seront plus autorisés. Donc, ah ouais, c'est dangereux parce que ça remet en cause l'ordre établi, donc il faut surtout pas.
Pour le cinéaste Sergei Eisenstein et toute la génération d'avant-garde cinématographique soviétique des années 20, dont il faisait partie, le montage constituait la technique fondamentale, la clé de voûte de l'expression cinématographique. Et celle-ci se devait de promouvoir les idéaux portés par la révolution russe de 1917. Mais le cinéma peut-il vraiment être au service de la révolution ? 1917 voit le renversement du régime tsariste en février et la prise de pouvoir par les bolcheviks en octobre de la même année. Mais dans l'industrie cinématographique, les changements s'opèrent progressivement. Jusqu'en 1918, les compagnies de production privées poursuivent leurs activités et les réalisateurs de l'ère tsariste continuent de travailler. Mais avec la guerre civile qui oppose l'armée rouge aux armées blanches, le matériel cinématographique vient à manquer. La production se réduit à peau de chagrin et se limite alors aux actualités et aux films d'agitprop. Mais le 27 août 1919, par décret, le régime bolchevique nationalise l'industrie cinématographique. Et peu à peu, dans l'effervescence moderniste qui agite l'Europe, une avant-garde cinématographique émerge en Russie. Ils s'appellent Lev Kuleshov, Tsigavertov, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein, Alexandre Dovzhenko, Grigori Kozintsev, pour ne citer que les plus connus. Mus par les idéaux bolcheviques, ils se réclament de l'art révolutionnaire et ont à cœur d'éliminer la culture bourgeoise pour éduquer le nouvel homme russe. Pour cette génération, l'art est intrinsèquement politique.
Il faut briser en mille morceaux la légende de l'art politique,
affirme en 1926 l'écrivain avant-gardiste Vladimir Mayakovsky. L'art, et en particulier le cinéma, doivent être mis au service de cette nouvelle société et permettre l'éducation des masses. Sergei Eisenstein était dans la recherche constante de l'efficacité de son médium sur le spectateur, comme l'attestent ses innombrables écrits théoriques. Et son obsession du calcul de la forme et de ses effets sur le spectateur s'inscrit dans une volonté d'éduquer les masses. En 1925, sort le deuxième film de Sergei Eisenstein, le fameux Cuirassé Potemkin, qui subit une forte censure en dehors de la Russie. En racontant la révolte de l'équipage d'un cuirassé lors de la révolution de 1905, le film pourrait en effet donner des velléités et provoquer un souffle insurrectionnel. Dès 1932, Staline exige une normalisation des arts. Et en 1934, c'est au cours du premier congrès des écrivains que le réalisme socialiste devient la seule doctrine valable en matière d'expression artistique. Ceux qui dévient de la ligne sont réduits au silence. C'est ainsi que de nombreux artistes d'avant-garde, dont Sergei Eisenstein et celui qui était devenu son rival, Tsigavertov, furent condamnés par le régime pour leur formalisme.
Eisenstein, quand il part aux États-Unis, va faire un film maudit qui s'appelle Guerre Mexico. Il ne pourra pas assurer le montage. Ouais. C'est Alexandrov qui a fait le montage plus tard.
Ah oui, c'est ça. Mais je crois qu'il n'a pas récupéré les images.
Il n'a jamais récupéré les images. Ouais. Il est mort sans avoir vu son film.
Ouais.
Parce qu'en fait, il est envoyé aux États-Unis. Et donc, il se lie avec Chaplin, qui lui présente un auteur socialiste ou socialisant, qui s'appelle Upton Sinclair, qui dit: je vais financer ton film. Il veut faire un film sur la révolution au Mexique. Les images sont magnifiques, hein, mais on voit que ce n'est pas son montage. Ouais. Le montage à Eisenstein, c'est fondamental. Et alors après, c'est Grigori Alexandrov, quand ils ont récupéré 20 ans plus tard les images, qui a fait un montage, mais Eisenstein était déjà mort. On peut supposer qu'à part la base du scénario et le fait que c'est son assistant, ça ressemble à ce qu'aurait fait Eisenstein, mais c'est pas Eisenstein qui l'a fait. Staline lui demande de revenir en Union soviétique, sinon il est déserteur, donc il revient, mis un peu au banc déjà. Et puis il va être interdit de tourner, puis il va vouloir faire un film à partir d'une nouvelle de Tourgueniev qui s'appelle Le Prix de Bégine. Ce film, on n'a que des images aujourd'hui, parce que les négatifs ont été des images de tournage. Les images, ça se passe de nouveau dans le monde paysan. Les négatifs ont été brûlés par la GPU, ou le NKVD, je ne sais plus à quelle époque c'était. Ils tombent de nouveau en disgrâce. Donc Alexandre Nevsky, pour y revenir, on lui donne le scénario, et il est sous surveillance.
Ah oui, c'est une commande, ouais, c'est ça.
Une commande. C'est une commande. On lui donne le scénario, et il est sous surveillance. A priori, son assistant réalisateur est là pour le surveiller. Il a un co-scénariste, un co-réalisateur dont personne, dont moi-même j'ai oublié les noms au passage, et l'acteur principal, Nikolai Tcherkassov, est peut-être censé le surveiller. Il va jouer Alexandre Nevsky. On n'est plus dans les années 20, parce que si vous voyez Alexandre Nevsky, qui est extraordinaire, hein, la bataille sur le lac à la fin, c'est autre chose. Il a Prokofiev qui fait la musique, sachant qu'ils font la musique. En même temps, Prokofiev, qui lui avait quitté l'Union soviétique avec les Russes blancs, et revient en lui disant: t'inquiète pas, on va pas t'embêter. personne va embêter Prokofiev, effectivement. Et ils écrivent la musique en même temps que Eisenstein va écrire le scénario. Clairement, Alexandre Nevsky, c'est Staline qui protège l'URSS. Sauf que le film, il est tourné en 1938. Il sort en 1938 en Union soviétique. Et il doit être présenté au tout premier festival de Cannes qui est censé avoir lieu en septembre 1939. Sauf que les soviétiques ont même deux semaines avant, ce festival de Cannes n'aura jamais lieu, puisque entre-temps on déclare la guerre. Et deux semaines avant ça, Staline, qui avait quand même liquidé 90% de ses généraux et colonels, se rend compte qu'il a un petit problème avec son armée et donc signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie.
Eh oui.
Or, c'est un film profondément anti-nazi.
Évidemment. En tout cas, anti-germanique, je veux dire.
Oui.
Puisque c'est un combat entre les Russes et l'armée allemande, qui est nommée comme telle, les Teutons, clairement. Quoi.
Ah oui, bien blond.
Ouais, ouais.
Et si tu vois les casques des fantassins allemands,
on dirait
les casques de la Wehrmacht, en fait.
Ouais, oui, bien sûr, ils ont pas d'aigle.
Bah, les homes des chevaliers teutoniques sont magnifiques. Mais par contre, je veux dire, les casques des fantassins, on dirait un casque de l'armée allemande.
Ah oui, exactement, tout à fait. Ouais.
Et donc, le film est retiré des affiches, et Staline demande, mais quand Staline demande, on obéit, en fait, à Eisenstein de faire une déclaration disant qu'il soutenait le pacte russo-soviétique, etc. Le film, bien sûr, va ressortir une fois que les nazis vont envahir l'URSS, et donc va faire le film de propagande.
L'intransigeance avec laquelle le prêt de Beijing a été censuré aurait pu marquer la fin de la carrière d'Eisenstein, comme il a été le cas de beaucoup d'autres artistes soviétiques pour des faux pas moins importants. Le style cinématographique pour lequel Eisenstein est devenu connu et célébré dans le monde entier n'était plus le bienvenu en URSS. L'avant-garde n'était plus tolérée. Malgré tout, il est décidé de lui accorder une nouvelle chance, et il est autorisé à tourner son prochain film. C'est l'époque de la lutte contre le cosmopolitisme, une période où il est décidé de miser sur la grandeur historique du peuple soviétique et russe, et son opposition aux forces extérieures. Et avec la menace croissante de l'Allemagne nazie, le choix du sujet tombe sur une figure historique symbolique. Alexandre Nevsky, prince du XIIIe siècle qui a combattu des envahisseurs suédois et allemands dans des batailles épiques. Le film a été un incroyable succès. Alexandre Nevsky est rapidement devenu un nouveau héros national. Et aujourd'hui, sa bataille la plus connue, la bataille du lac Peipus, est associée à la scène qui semble avoir été inventée par Eisenstein, où les chevaliers allemands tombent dans le lac gelé sous le poids de leur armure. C'est une anecdote que beaucoup pensent historique tellement elle est ancrée dans les esprits. En 1942, l'URSS crée l'ordre d'Alexandre Nevsky. Et étant donné qu'aucun portrait du prince de son vivant ne nous est parvenu, la médaille représente l'acteur qui a interprété le personnage dans le film d'Eisenstein.
Et permettra à ce moment-là à Eisenstein de faire un autre projet, qui s'appelle Ivan le Terrible, qui devait avoir trois parties, qui n'en aura que deux, parce que Ivan le Terrible, donc il y a de nouveau Tcherkassov qui joue avec lui, qui jouera le rôle du tsar Ivan IV au XVIe siècle, je parle pas russe, hein, mais en russe ça se dit Ivan Grozny, et Grozny ça veut dire qu'il suscite l'admiration et la crainte. Et qu'est-ce qui peut dans la tête d'Eisenstein susciter l'admiration et la crainte en 1942, si ce n'est Joseph Staline? Sauf que bon, la première partie, Staline qui sauve la Russie, les invasions tatars, etc. La deuxième partie, il y a une police politique qui se met en place, on voit un tsar manipulateur qui va monter les uns contre les autres pour rester au pouvoir, etc. Staline le prend très très mal, donc la seconde partie, qui est en plus une histoire extraordinaire, parce qu'ils manquent de pellicule, ils prennent de la pellicule Kodakolor sur l'armée allemande qui recule, donc on a 10 minutes en couleur extraordinaire. Pareil, c'est Prokofiev qui fait la musique. La troisième partie n'a jamais eu lieu. Enfin, il a commencé à tourner deux scènes, mais il n'a jamais pu avoir lieu parce que interdiction de tourner le film, il est convoqué, donc le film ne sort pas en Union soviétique, il sortira 10 ans plus tard grâce à Khrouchtchev, mais Eisenstein est déjà mort. Et en fait, il est convoqué en disant « Oui, mais là, vous montrez Staline sous un mauvais jour, en quelque sorte. » Parce qu'ils sont convoqués, Nikolai Tcherkassov et Sergei Eisenstein, par Staline et Molotov, un soir au Kremlin. Donc là, ça calme tout de suite. Hein. Et donc, Eisenstein donc, ne pourra plus jamais... Alors, Nikolai Tcherkassov continuera une carrière d'acteur dans le cinéma et dans le théâtre, mais jamais. Eisenstein ne pourra plus jamais tourner. Il meurt en 1949. C'est un film maudit, en quelque sorte. Yeah. Ce sont des films de commande, hein, on lui demande. Mmh. Et là, on est vraiment dans un nationalisme pan-russe, en quelque sorte, hein, dans Alexandre Nevsky, ou surtout dans Ivan le Terrible, en quelque sorte, pour justifier, finalement, l'extension du territoire russe. Et on n'est plus dans l'URSS, en quelque part. Même si il parle de l'URSS à travers des personnages au XIIIe siècle, au XVIe siècle. Dans les années 1920, il n'y a pas de cinéma de divertissement. Mmh. Mais par contre, dans les années 1930, alors c'est déjà un peu le cas avec La Merge de Poudovkine, qui est une adaptation d'un roman de Gorky. En fait, il y a une exaltation de l'art et de la culture russe. Dans ce cas-là de Beau, c'est-à-dire, ça peut être du Tchekhov, ça peut être, mais c'est pas du divertissement pur. Et il y a une culture russe extraordinaire, hein, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Enfin, tout ça va être mis en image. Donc on n'est plus dans la propagande communiste, marxiste, etc. On est dans le passage à, on fait le socialisme dans un seul pays, et dans ce pays-là, on a une culture qui est né au XIXe siècle. Alors certes, hein, on peut penser que les auteurs russes du XIXe siècle, par leur description de ce qu'est la société russe, d'une certaine manière, préparent la révolution. Mais bon, voilà. Et le système de divertissement vient plus tard, en fait. Il faut vraiment attendre la mort de Staline, en quelque sorte. Собой сожгли.